Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, elle slame, elle écrit de la poésie, elle est vidéaste, conférencière et animatrice de débats. Toute Fine est une artiste algérienne très présente sur les réseaux sociaux et très engagée dans la lutte contre les discriminations dont les femmes sont victimes. Zouliha Tahar, alias Toute Fine, s'est fait connaître en 2017 grâce à un court-métrage traitant du harcèlement de rue. Elle anime également des ateliers d'écriture et organise des rencontres littéraires et des lectures majoritairement féministes. Originaire d'Oran, elle porte également un regard vif sur les événements qui secouent actuellement l'Algérie. La slameuse Toute Fine, c'est le portrait que vous propose Orient Hebdo ce dimanche. Bonjour Zouliha Tahar.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous êtes slameuse et vidéaste algérienne autodidacte. Vous avez commencé à écrire sous le pseudonyme Toute Fine en 2015. Pourquoi ce nom ?
Alors, c'est un peu bizarre, c'est parce que dans ma famille, mon entourage, toutes les femmes étaient assez fortes de taille, avaient des courbures. Moi, j'en avais pas. Je suis née très maigre, j'ai vécu très maigre. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et du coup, je me faisais moquer, insulter par rapport à ma corpulence. Et donc, quand j'ai voulu commencer à m'exprimer sur les réseaux sociaux, ma mère était contre que je le fasse avec mon vrai nom. Et donc, je cherchais un pseudo et j'ai décidé de faire de toutes ces moqueries, de toutes les insultes, de me les approprier, de les accepter et d'en faire quelque chose de mignon, joli. Et donc, c'est comme ça que Toute Fine est née.
Voilà, Toute Fine, qui est votre nom de scène. Alors, vous vous êtes fait connaître en 2017, notamment grâce à un court-métrage co-réalisé avec une autre artiste, Sam MB.
MB, oui.
Qui traitait du harcèlement de rue. Alors, c'est un phénomène courant en Algérie et au Maghreb ?
C'est un phénomène courant partout dans le monde, je dirais, à des degrés différents. On sait qu'il est très intense en Inde, très très intense aussi en Égypte. Il est présent aussi dans ce qu'on appelle l'Occident. Et au Maghreb, oui, au Maroc, c'est un vrai problème de société. En Algérie aussi. Quand on a fait ce court-métrage, Sam et moi, on voulait partir de nous. On a essayé d'illustrer deux situations. Une femme avec un foulard entièrement couverte, mais qui se faisait quand même insulter. Une autre qui était juste sans foulard, en jean, en t-shirt, mais qui se faisait aussi harceler. C'était pour passer un message simple, c'est que le premier problème dans l'imaginaire patriarcal, c'est le fait d'être femme, peu importe le lieu, peu importe la société, la culture dans laquelle on a grandi. Le premier problème, c'est le fait d'être femme. Après, certes, les répressions et le patriarcat, il est différent d'un pays à l'autre, mais il est présent partout.
Comment expliquer cette situation et aussi comment lutter contre ?
Moi, sincèrement, j'ai pas compris et je saurais pas expliquer réellement cette situation. C'est juste que pour moi et pour beaucoup de militantes et militants, féministes aussi, le problème, c'est l'imaginaire que le monde s'est construit autour des genres. De se dire que le genre masculin hétéro est supérieur au genre féminin et aux autres aux personnes homosexuelles ou qui ne se considèrent ni femme trans ni femme ni homme, enfin voilà. C'est surtout cet imaginaire qui s'est construit autour de la répression des classes, répression des genres et la lutte des pouvoirs. Je pense qu'à un moment donné l'homme s'est dit qu'il fallait, pour qu'il garde le pouvoir, réprimer ceux et celles qui ne lui ressemblaient pas, surtout les femmes.
Ce court-métrage, est-ce qu'il a été diffusé largement hors de France et peut-être en Algérie ? Et comment a-t-il été reçu ?
Alors, le court-métrage, on l'a réalisé en Algérie. Donc, c'est plus, il a été diffusé hors d'Algérie et pas hors de France. On l'a mis sur YouTube, donc on l'a pas monétisé. On voulait vraiment que ce soit un acte militant pur. Et il a connu un écho très très fort, il a été repris par pas mal de médias. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais quelques temps après le court-métrage, le gouvernement algérien a voté une loi qui pénalise le harcèlement de rue. Parce que ce court-métrage-là, c'était juste un boom qui a enclenché pas mal de témoignages après, de femmes algériennes du coup, qui témoignaient en commentaire sur la vidéo ou sur les publications et les articles qui en parlaient. Nous, c'est ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait, suite à ce court-métrage-là, que la suite soit des témoignages des femmes qui se sentent rassurées, qui se disent qu'elles ne sont pas seules à subir ceci et que du moment où deux femmes algériennes vivant en Algérie en ont parlé sans peur et sur les réseaux sociaux à visage découvert, elles aussi, elles pouvaient en parler.
Finalement, c'est une sorte de MeToo algérien sur ce problème-là particulier.
Oui, d'une certaine manière, oui.
Alors, vous faites vivre toute fine de différentes façons sur les réseaux sociaux et vous en avez fait notamment un recueil de poésie. La poésie, ce n'est pas pourtant le média le plus porteur.
Oui, mais moi, j'écris depuis toujours. Et si j'ai commencé le slam et les vidéos, c'est parce que je partageais mes textes, mais personne ne me lisait parce qu'on est dans un monde qui va vite où les gens n'ont pas forcément le temps de lire des textes assez conséquents. Donc j'ai commencé à enregistrer, à mettre sur SoundCloud et ensuite pour mettre sur YouTube, j'ai commencé à toucher un peu à la vidéo. Comme ça, mon travail a eu de l'écho et c'est au bout de 2 ans de vidéos du coup et de slam que j'ai décidé d'en faire un recueil. Donc j'ai sélectionné une 50aine de textes que j'ai illustrés avec 50 photos parce que je faisais de la photo avant. Et ce recueil-là, c'était une auto-édition avec la contribution de l'Institut français d'Oran. Et c'est surtout le directeur de l'Institut français, M. Alain Ramet, qui m'avait poussé à en faire un recueil pour qu'il touche un public plus large, un public qui est aussi intéressé par la lecture et qui voudrait étudier ces textes-là, les comprendre un peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et oui, la poésie, c'est pas courant, c'est pas c'est pas que c'est pas accessible, mais c'est surtout que c'est pas courant. Du coup, le recueil n'a pas connu un succès large. Il s'est vendu à quelques 400-450 exemplaires.
Mais pour de la poésie, c'est bien déjà.
Oui, c'est déjà bien. Et pour une auto-édition aussi, je pense que c'est assez bien. Mais voilà.
Est-ce que vous pourriez slammer pour les auditeurs d'Orient Hebdo?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Le texte s'intitule « La femme bleue ». Et le texte, c'est autour de la lassitude que connaissent certaines femmes à force de lutter et de voir que à chaque fois qu'elle brise une barrière, il y en a d'autres qui les entourent. La lutte féministe a besoin d'être encouragée par les hommes et par les femmes aussi. Et il faut que ce soit intersectionnel et universel surtout. Du moment où ça ne l'est pas, certaines femmes lâchent prise. Et donc ce texte, c'est sur le lâcher prise.
On vous écoute.
Elle a le regard envieux et ses yeux n'implorent plus les cieux. Elle porte ses marque et se démarque par la frénésie de ses mouvements. Elle s'égare souvent dans des réflexions qui lui coûtent à chaque fois ce que beaucoup conçoit comme étant une joie. La tranquillité. C'est dans le bleu éclatant de la mer qu'elle la voit. Sa voix prit chaque nuit l'absorption de chacune de ses parties. À son corps, elle ne trouve plus aucune raison, plus aucune attraction. Elle a su faire du rejet une passion. Elle collectionne l'inachèvement et s'attend constamment à ce qu'il y ait au tournant d'un rire éclatant, un noir assourdissant qui lui fera encore plus envier le bleu infini de cette Méditerranée dans laquelle elle cherche à s'effacer. Elle s'est donné des noms à chaque foulée, elle voulait se séparer de ses peines et encore là, elle voudrait croire qu'elles ne lui appartiennent pas. Elle continue à tout nier, à tout contourner. La honte l'a de toutes parts colorée. Sa peau est désormais teintée d'un bleu qui ne veut à la mer se mêler sans mêler. Dis-moi donc que l'amour existe. Chérie de ce pas la rassurer, lui dire qu'elle n'a plus de raison d'être triste et que tout finira par s'arranger. Elle a le cœur entre les mains, tu sais, et cherche constamment à le donner comme un fardeau duquel elle voudrait se séparer, elle voudrait se léguer, qu'on décide pour elle, qu'on vive pour elle, qu'on l'aime, qu'on lui fasse oublier ses peines, qu'il y a un pour toujours, quoi qu'il advienne. Elle en a assez. Elle en a assez. Elle en a assez d'écrire la différence, l'indifférence et l'absence. Elle en a assez. Elle en a assez des violas noyés dans les mœurs d'un peuple auquel elle ne s'identifie plus. Elle se tue. Elle se tue à croire en ce qui est déjà mort. Plus aucun décor la satisfait. Elle est dépassée, fatiguée, déchirée. Dépassée, fatiguée, déchirée entre ce qu'elle est et ce que son entourage voudrait qu'elle soit. Elle se conçoit comme une âme en feu, une femme au corps teinté de bleu.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI, nous sommes en compagnie de Zouliha Tahar qui est slameuse, on vient de l'entendre. avec laquelle nous parlons de Toute Fine, son personnage qu'elle a créé sur les réseaux sociaux. Alors, Zuleyha Tahar, le recueil dont nous parlions à l'instant, recueil de poésie, a donné naissance à un spectacle joué d'abord à Paris, puis à Annaba,
oui,
en Algérie. Racontez-nous comment se déroule ce spectacle et surtout son titre. Son titre est assez mystérieux, Autour de Presque Deux.
Alors, Autour de Presque Deux, c'est autour du recueil parce que le titre de recueil, c'est Presque Deux. Presque Deux, c'était parce que le recueil, c'est un concentré de presque 2 ans, du coup, que je partageais mes textes sur les réseaux sociaux. Et Presque Deux aussi parce que moi, je voulais pas de dissociation, mais les gens qui me lisaient, qui m'écoutaient, pensaient qu'il y avait deux personnages. Toute Fine, c'est juste un rempart, un corps qui porte la voix d'un autre. Et du coup, le spectacle, c'est autour de ça. Et j'ai tiré du recueil qui comporte 50 textes. J'en ai tiré 9. Et le recueil, c'est autour de la peur de notre entourage, donc la peur que nous impose l'extérieur et surtout les membres de notre famille. Donc moi, c'était la peur que m'imposait ma mère, la peur qu'il m'arrive quelque chose et qui m'empêchait d'aller au bout de ma lutte parce que j'avais peur qu'elle ait peur et que voilà, bref. Et j'en parle d'ailleurs dans ce texte-là que je viens de slammer. Fatiguée, dépassée, fatiguée, déchirée entre ce qu'elle est et ce que son entourage voudrait qu'elle soit, parce que souvent notre entourage nous impose une certaine direction qu'il pense être plus confortable, plus sûr, plus sécurisé pour nous. Ce qui pourrait être le cas, mais ce qui est souvent pas ce qu'on a envie. Voilà, donc c'était autour de ça. Et donc le spectacle commence par ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre. C'était une fenêtre qui donnait sur la petite cour de la maison. De cette fenêtre-là, moi, je rêvais de découvrir le monde et de me découvrir moi à travers ce monde-là. Et donc, la peur de mon entourage qui avait peur qu'il m'arrive malheur et donc qui m'empêchait de découvrir le monde, de comprendre cette peur-là. La lutte passe pas obligatoirement par la force. Qu'elle peut être pacifiste, qu'elle peut passer par la discussion, qu'elle peut passer par un commun accord. Et voilà. Donc,
et est-ce que ce spectacle, c'est aussi un spectacle sur la libération de la parole ?
Oui, totalement. Sur la libération de la parole et un contexte aussi. Donc, comme je disais, ma chambre, mais aussi je parle énormément de ma ville parce que moi j'ai un rapport très fort avec ma ville, Oran.
Oran.
Et j'ai grandi face à la mer et la mer me fascinait.
Face à la mer et face à un mur aussi.
Oui, voilà. Face aux peurs de ma mère. J'étais troublée par la peur de ma mère, j'étais fascinée par la Méditerranée, par la mer, et aussi très perplexe face au mur qui se dressait face à moi. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de remises en question, on a peur, je dis « on » parce que c'est mon expérience personnelle, mais je l'ai aussi entendue et lue chez d'autres personnes. La peur d'être reniée, d'être considérée comme un traître ou comme une traîtresse. Et donc, du moment où on se dit que le fait de partir remet pas en question l'amour qu'on porte pour notre entourage, ça libère énormément la parole, ça aussi.
Zuleyha Tahar, vous avez suivi un cursus tout à fait particulier en mécanique des matériaux, oui, à l'université de Sidi Bel Abbès. N'est-ce pas schizophrénique ces deux caractéristiques? D'un côté, la mécanique des matériaux, c'est quelque chose d'extrêmement scientifique, et de l'autre, slammer, écrire des textes magnifiques comme vous le faites.
Oh, merci beaucoup. Mais j'y suis encore. J'ai fait matériaux et métallurgie à la faculté des sciences d'Oran. Ensuite, j'ai fait 3 ans de doctorat en mécanique des matériaux à la faculté de Sidi Bel Abbès. Et oui, enfin, moi, j'ai toujours été attirée par la littérature, mais ma famille pensait que j'aurais un avenir plus certain en faisant des sciences, chose que j'ai faite. Même si ça peut nous apporter un certain confort social et financier surtout, on peut pas faire quelque chose sans y mettre de l'amour, on peut pas faire quelque chose de routinier, c'est juste pas possible. Il faut qu'il y ait une essence à ce qu'on fait, il faut que ce soit d'une manière ou d'une autre militant. Il y en a qui travaillent dans les sciences et qui travaillent dans les sciences, dans l'ingénierie, pour les matériaux renouvelables et qui militent pour que la science soit au profit et au service de notre planète. Et ça, je trouve que c'est tout à fait louable. La science peut être militante. Ce n'était pas le cas pour moi.
Ouais, ce n'est pas votre truc.
Ce n'est plus mon truc. Voilà.
Alors, l'Institut du monde arabe à Paris vous a accueilli récemment pour une performance installation titrée « De Paris à Oran, dialogue entre deux rives », réalisée avec un designer graphique franco-algérien qui s'appelle Eddy Terki. Vous dites que ces deux villes sont proches, Elles ont pourtant des cultures bien différentes, apparemment.
Oui, mais elles sont proches. Déjà, l'architecture est très frappante, parce que on appelait ça le Petit Paris. Et ensuite, elles se rapprochent par leur jeunesse, moi je dirais. Parce qu'à Oran, comme à Paris, il y a une fougue. La jeunesse, elle sort, elle vit en communauté aussi. Les deux villes sont très très festives. Elles se rapprochent autour de ça. Et donc, c'était en novembre 2017, pour le trentenaire de Lima. Et c'était une carte blanche à Oxmo Puccino, donc qui avait choisi notre projet. On a échangé, il dit et moi, pendant un mois. Lui, il est né ici, il a grandi ici. Et il voulait découvrir, du coup, l'Algérie. Il voulait que je lui décrive la jeunesse algérienne. Et moi, je voulais qu'il me fasse découvrir son ailleurs à lui. Et lui, il voulait mon ailleurs à moi. Donc, on a discuté, on s'est échangé. Les lettres, c'était en français. Après quoi, j'ai fait la traduction donc, de la masse de textes qu'on a eu au final du français à l'arabe algérien. Et on a écrit donc, cet échange-là sur les trois colonnes principales de la salle. Et Postil, la salle qui se trouve au moins 1 à l'Institut du Monde Arabe. Et voilà, donc c'était un échange entre les deux rives. C'était autour de la ville et de rapports qu'on a à la ville et de rapports que la jeunesse a à cette ville-là.
Alors vous animez, en tout cas, toute fine,
oui.
Anime beaucoup d'ateliers d'écriture, vous animez des rencontres littéraires, des débats, des lectures, souvent féministes. Que recherchez-vous dans ces différents projets, dans ces différentes activités? Est-ce que vous avez des projets à venir?
Alors oui, alors moi ce que je recherche dans tous les ateliers et les scènes ouvertes que je faisais et j'espère continuer à faire avec Sam Mbé, c'était essayer d'ouvrir la parole aux autres. Ce qu'on faisait, c'est que on commençait par lire nos textes, Samia et moi, donc Sam, et on invitait les gens à en faire de même. Et du coup, les personnes présentes, en nous voyant nous lire nos textes avec sourire, dans une ambiance assez bonne enfant, bah, ça les encourageait à en faire de même. Donc c'était surtout autour de ça, les ateliers qu'on faisait, on appelait ça atelier d'écriture et slam, mais on n'était pas là pour apprendre aux gens à écrire ni à slammer, on était là pour qu'ils le fassent et puis c'est tout. Parce que en Algérie, il y a une jeunesse qui est très militante, il y a une jeunesse qui est très cultivée, il y a une jeunesse qui est très très intéressée par les arts, mais qui a peur de mal faire. Et du coup, cette peur de mal faire, de se faire ridiculiser, bah en fait, elle pousse les gens à rien faire. Donc nous, on montrait qu'on peut faire des erreurs. C'était surtout ça.
Alors justement, on parle de cette jeunesse qui hésite parfois à faire des choses. Or, en ce moment, la jeunesse en Algérie, elle est dans la rue.
Oui.
Comment voyez-vous ces événements dans votre pays?
C'est juste que en fait, la jeunesse a eu marre de se faire humilier. Donc la jeunesse est dans la rue, mais aussi ses aïeux, ses pères, ses mères sont dans la rue aussi. Parce que le peuple tout entier en a eu marre de se faire humilier, de se faire ridiculiser, de vivre dans l'injustice et dans la pauvreté et de se dire que bon, c'est comme ça et puis c'est tout. On en a eu marre du c'est comme ça et puis c'est tout. Un pays, c'est son peuple. Et donc la jeunesse algérienne, le peuple algérien tout entier veut aujourd'hui se réapproprier son pays.
Et tout cela de façon pacifique.
De façon pacifique. Jusqu'ici, c'est très pacifique, c'est très beau à voir, parce que je pense que l'Algérie a pris du recul, a vu ce qui s'était passé dans les autres pays qui ont fait leur révolution, et on n'a pas envie de passer par ça. On n'a pas envie que ce soit une lutte de pouvoir, parce qu'on l'a vécu, la lutte de pouvoir, ça fait 20 ans qu'un système est au pouvoir, qui se remplit les poches au profit de la populace, et on n'a pas envie de ça, on a envie de construire un pays pour toutes et tous, un pays de droit. La lutte première, c'est que tout le monde, toutes les personnes en Algérie et ailleurs dans le monde, je le souhaite, puissent terminer leur fin de mois sans avoir à prêter de l'argent ou à dîner, sans déjeuner. Enfin, c'est surtout ça la lutte en ce moment.
Donc ce mouvement, vous le soutenez, en tout cas, toute fine le soutient.
Oui.
Et apporte son soutien peut-être sur les réseaux sociaux.
Oui, oui, oui.
Merci Zouli Rattar. Toute fine pour la scène, slameuse et vidéaste.
Merci beaucoup Éric Bataillon, merci de nous avoir invité.
L'Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr rubrique émission ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite le journal.
Religion du monde.